Radio Orient, il est midi, le journal François-Xavier de Calanne. L'armée israélienne autorise ses soldats à tirer à balles réelles sur des lanceurs de pierres ou de cocktails Molotov, même s'ils ne constituent plus une menace immédiate. Une nouvelle règle dénoncée par le président de l'association France-Palestine Solidarité, Bertrand Heilbronn, sera l'un de nos invités. Le budget de l'année 2022 en Tunisie prévoit un endettement de 6 milliards d'euros. Le député du mouvement Tayatounes Marwan Felfel déplore une absence de concertation. Nous l'écouterons. Washington nomme une émissaire spéciale pour les droits des femmes afghanes, une américaine née en Afghanistan qui avait travaillé dans l'administration de l'ex-président Barack Obama. La lutte contre la très forte hausse des cas de Covid-19 en France, le port du masque redevient obligatoire dans la quasi-totalité de l'Île-de-France. La mesure prendra effet demain. L'armée israélienne change ses règles de tir contre les civils palestiniens. En clair, les soldats pourront tirer à balles réelles sur des lanceurs de pierres ou de cocktails Molotov, même s'ils ne constituent plus une menace immédiate. Jusque-là, les règles n'autorisaient l'utilisation de la force létale que pour prévenir une attaque imminente. Le premier ministre de l'autorité palestinienne a qualifié ces nouvelles règles de politique d'exécution. Il en appelle à l'intervention urgente de la communauté internationale. Entretien avec le président de France-Palestine une solidarité, Bertrand Heilbronn.
La première réaction, c'est de dire aussi quand même que ce n'est pas nouveau, que le fait que l'armée israélienne tire sur les Palestiniens, sur les civils palestiniens, en dehors de toute menace contre les soldats, on l'a vu, alors de manière particulièrement forte, lors des marches de retour à Gaza, où les Palestiniens étaient ciblés, y compris le personnel médical, clairement par les tireurs israéliens. On l'a vu aussi tout au long de cette année où le nombre de morts palestiniens dans les manifestations s'est accru de manière très importante. On le voit aussi la manière dont l'armée israélienne protège les colons dans leurs actes violents qui sont de plus en plus graves contre les Palestiniens. Mais là, effectivement, l'officialisation de cette règle, même si l'armée dit que non, ces règles d'engagement sont secrètes, est quand même un signal supplémentaire d'impunité qui est donné aux officiers et aux soldats israéliens qui tirent sur les Palestiniens. C'est évidemment totalement... les mots, on ne sait plus quel mot utiliser. On va dire scandaleux, mais c'est pire que ça. Ce sont des crimes, c'est des militaires qui commettent ces actes, sont des criminels de guerre, qui sont passibles de la Cour pénale internationale, qui sont devraient être jugés pour leurs actes. C'est aussi un signal supplémentaire de mépris du gouvernement israélien vis-à-vis de la population palestinienne. Je pense que c'est quelque chose qui devrait aussi être entendu par nos gouvernements, notamment en France et en Europe, que ce gouvernement qui veut se donner parfois une allure convenable, à l'extrême droite, dans la négation totale des droits des Palestiniens, est probablement pire que celui de Netanyahou.
Le Premier ministre de l'autorité palestinienne en appelle à l'intervention urgente de la communauté internationale. Qu'attendez-vous aujourd'hui de la part de la communauté internationale et notamment de la part de l'Union européenne ?
On pourrait dire déjà qu'il faudrait des actes. Avant les actes, il faudrait des déclarations claires. Ces déclarations claires, ça fait un moment qu'on ne les a même pas. Je pense notamment à ce qui se passe avec les 6 ONG palestiniennes de défense des droits de l'homme qui ont été de manière absolument scandaleuse accusées par le ministre de la Défense israélien des organisations terroristes qui a pris un acte d'interdiction à leur égard. Franchement, les réactions de la communauté internationale qui demande vaguement des éclaircissements à Israël ne sont pas du tout à la hauteur de ce qu'il faudrait attendre dans ces cas-là. Donc on attendrait là aussi des déclarations claires de soutien à la population palestinienne, de soutien aux ONG de défense des droits de l'homme, qui d'ailleurs documentent des crimes commis par l'armée israélienne. Aujourd'hui, même les déclarations font défaut. Donc j'aurais tendance à dire que la France, que l'Union européenne déclare de manière très claire que ceci est totalement inacceptable et que enfin elle mette en place de véritables moyens de pression pour que ces politiques cessent. Et on voit bien aussi que le mot occupation n'a plus beaucoup de sens. Enfin, une occupation qui dure depuis 54 ans est une occupation colonisation, c'est une entreprise de dépossession du peuple palestinien, c'est beaucoup plus qu'une occupation temporaire. On est dans un système organisé d'oppression qu'on appelle l'apartheid. On est dans un système qui ne peut plus durer. La première demande des Palestiniens, c'est que cesse cette occupation militaire. Je crois que c'est là-dessus aussi qu'il faudrait intervenir à cette fin d'année, au tournant de cette année 2022, avec beaucoup plus d'énergie qu'on ne l'a fait jusqu'à présent.
Et vous déplorez notamment les destructions de maisons dans les territoires occupés. Les forces israéliennes qui ont démoli cette semaine 11 structures palestiniennes en Cisjordanie.
En Cisjordanie et à Jérusalem, un immeuble d'habitation a été détruit dans le quartier Al-Bustan de Sidwan, donc un quartier de Jérusalem-Est au bord de la vieille ville, avec lequel d'ailleurs de très nombreuses collectivités françaises ont des relations de coopération. Pendant que effectivement on est dans cette période de vacances, pendant qu'on a les yeux qui sont tournés un peu ailleurs, les Israéliens redoublent d'intensité dans leurs entreprises de destruction. Et donc je pense que c'est quand on fera le bilan complet de l'année 2021, ça sera une année particulièrement noire en termes de destruction de structures et d'habitations palestiniennes.
Quel regard portez-vous aujourd'hui sur la politique des États-Unis vis-à-vis de ce qui se déroule au Proche-Orient ?
Les États-Unis semblent être aujourd'hui dans une politique d'illusion, de croire qu'ils peuvent demander quelques bonnes grâces au gouvernement israélien pour faire, entre guillemets, baisser l'intensité du conflit, ne plus s'en occuper et aller regarder ailleurs du côté du Pacifique. Tout ce qui se passe va totalement à l'encontre de ce projet. La colonisation ne cesse de s'intensifier. On voit ce que l'occupation militaire devient de plus en plus horrible. Les Israéliens, en fait, sous couvert de quelques mesures qui sont d'ailleurs réversibles, genre quelques permis de travail à des Palestiniens pour aller travailler en Israël en ayant après avoir ruiné leur économie, en fait, sont dans une politique de répression de toute résistance palestinienne beaucoup plus féroce que ce qu'on a été jusque-là. En témoigne l'attaque contre les ONG palestiniennes de défense des droits de l'homme. Et donc, les États-Unis froncent parfois le sourcil quand il y a des projets de colonisation trop caricaturaux. Bon, les Israéliens, ils disent qu'ils vont attendre quelques semaines ou quelques mois. Et par ailleurs, n'ont même pas le courage d'imposer l'ouverture d'un consulat à Jérusalem-Est, comme ils s'y étaient engagés. Donc on a une politique de faiblesse, et les politiques de faiblesse, ça ne fonctionne pas avec Israël.
Le président de France-Palestine Solidarité, Bertrand Helbron. Les frappes israéliennes menées mardi contre le port syrien de Latakié ont fait 2 morts, des miliciens pro-régime décédés hier des suites de leurs blessures, une information de l'Observatoire syrien des droits de l'homme. Les opposants au pouvoir militaire au Soudan doivent de nouveau manifester aujourd'hui. La capitale soudanaise est quadrillée par les forces de sécurité. Les ponts qui la relient à ses banlieues sont barrés par des conteneurs. Washington nomme une émissaire spéciale pour les droits des femmes afghanes, une priorité affichée de l'administration américaine depuis que les talibans ont pris le contrôle du pays. La nouvelle émissaire, Rina Amiri, est une américaine née en Afghanistan qui avait travaillé dans l'administration de l'ex-président Barack Obama. Elle doit travailler sur les droits humains et les libertés fondamentales des femmes, des filles et des autres populations à risque dans toute leur diversité. Le respect des droits des femmes est l'une des conditions exigées par les donateurs pour la reprise de l'aide internationale à l'Afghanistan dirigée par les talibans. Le budget de l'année 2022 en Tunisie prévoit un endettement record, un endettement de 6 milliards d'euros. Objectif, relancer une économie lourdement affectée, notamment par les conséquences de la pandémie du Covid-19. Le pays qui a mené cette année des discussions avec le Fonds monétaire international pour un nouveau prêt en contrepartie de réformes destinées à assainir ses finances. Sur ce budget 2022 en Tunisie, entretien avec le député du mouvement Taïa Tounes, Marwan Felfel, qui déplore une absence de concertation.
C'est comme tous les décrets aujourd'hui et les lois en Tunisie, sont émis sous forme de décrets présidentiels signés par le président de la République en se basant sur sa version des mesures exceptionnelles et l'état, je dirais, d'exception qui aujourd'hui gère la Tunisie.
C'est un budget qui a été établi sans discussion, c'est ce que vous nous dites ?
Exactement, ni avec les syndicats, il n'y a aucun débat public autour de ce budget. Je ne parle pas des partis politiques ou des députés ou même avec les différents partis prenants, c'est-à-dire les syndicats, les professions, tous les secteurs touchés par les mesures, ou les universitaires, c'est-à-dire la société civile, personne n'a été sollicité, où il n'y a aucun échange sur ce sujet, surtout où il y a un certain nombre de sujets qui doivent être débattus en public, avoir un minimum de consensus national, certainement l'endettement, la fonction publique, les réformes et les mesures qui concernent certains secteurs essentiels. On parle notamment des secteurs prioritaires aujourd'hui après la crise sanitaire, c'est-à-dire la santé, mais aussi sur des questions de la subvention publique, soit aux matières premières, c'est-à-dire les produits de première nécessité, c'est-à-dire le carburant, c'est-à-dire tout ce qui concerne la subvention publique.
Vous évoquiez l'endettement. La Tunisie prévoit pour 2022 un endettement de 6 milliards d'euros. Et l'objectif est bien entendu de relancer l'économie, affectée notamment par la crise sanitaire.
Exactement, c'est-à-dire on continue sur la même lignée d'endettement. Le budget de 18 milliards de dinars d'endettement, dont 12, dont la moitié presque de l'endettement extérieur. C'est-à-dire on reste sur les mêmes proportions d'endettement extérieur, sur aussi le déficit budgétaire qui peut atteindre 7% prévu dans cette loi de finances. Aussi des mesures d'amnistie qui ont été souvent critiquées par le président de la République lorsque ça a été évoqué au mois de juillet à l'Assemblée, sur l'amnistie de cash, du cashing, sur des mesures de ce genre. Ça a été qualifié par le président de mesures encourageantes à la corruption ou pour certains lobbies.
Et c'est un budget qui a été élaboré sur la base d'un taux de croissance de 2,6% en 2022 ?
Exactement, avec certaines hypothèses de taux de croissance, de prix de baril, je crois, à 75 $, avec des hypothèses de taux de change également. C'est raisonnable, mais ce qui est plutôt surprenant, c'est-à-dire le manque de concertation, le manque de dialogue avec les différents parties prenantes.
Ce budget a été établi à la suite de discussions menées au cours de l'année 2021 avec le Fonds monétaire international, des discussions pour l'obtention d'un nouveau prêt, mais cela en contrepartie de réformes destinées à assainir les finances de la Tunisie.
Bien sûr, et beaucoup de Tunisiens les demandent, c'est des réformes qui ont tardé, c'est des réformes concernant la masse salariale de la fonction publique qui atteint des proportions les plus élevées à l'échelle mondiale, c'est-à-dire la réforme de la subvention publique, c'est-à-dire en matière de matières de base et au carburant, les réformes liées aux entreprises publiques, qu'une partie de ces entreprises sont déficitaires et aujourd'hui causent subissent des déficits même qui impactent le budget de l'État. Et quatrièmement, c'est la fiscalité et la digitalisation de l'administration fiscale. Ces quatre défis majeurs doivent être aussi, et c'est exigé par le FMI, ça doit être en concertation avec les différentes parties prenantes, notamment les syndicats et la société civile tunisienne. Aujourd'hui, on attend ce débat qui soit ouvert en Tunisie avec toutes les différentes parties prenantes pour arriver à une feuille de route.
À l'approche de la fin de l'année 2021, est-ce que vous pouvez nous faire part du bilan que vous faites de cette année en Tunisie, cette année marquée notamment par les mesures exceptionnelles prises le 25 juillet par le président Kais Saied?
Je crois que c'est une année difficile sur le plan économique, surtout. L'impact de la crise sanitaire a été constant, c'est-à-dire on a connu un retard au niveau de la campagne de vaccination, pratiquement des couvre-feux et des confinements généraux pendant des longues périodes, ce qui a touché le fonctionnement et l'activité économique dans plusieurs services, notamment le secteur des services, l'hôtellerie, le transport. Alors on sort avec des secteurs très fragilisés, ce qui a impacté toute la chaîne économique. C'est une année très difficile. En plus de l'instabilité politique créée, je crois que les défis sont majeurs par rapport à la Tunisie aujourd'hui.
le député tunisien Marwan Felfel. Au Maroc, un homme sympathisant du groupe État islamique a été arrêté à Salé par le Bureau central d'investigation judiciaire. Il a été déféré devant le parquet en charge des affaires de terrorisme et d'extrémisme. Il avait téléchargé plusieurs documents depuis des sites extrémistes relatant les étapes de fabrication d'engins explosifs. Un officier de police a été exécuté en Irak. Cet homme a été tué par des terroristes de Daesh, une annonce des autorités irakiennes, 2 semaines après l'enlèvement de cet homme dans l'est du pays, dans la région de Hamrin. La lutte contre la très forte hausse des cas de Covid-19 en France. Le port du masque redevient obligatoire dans la quasi-totalité de l'Île-de-France. La mesure prendra effet demain à Paris, en Seine-Saint-Denis, dans le Val-d'Oise, les Hauts-de-Seine, le Val-de-Marne, ainsi que dans les agglomérations de l'Essonne et les centres-villes des agglomérations des Yvelines. Sont concernées les personnes âgées de plus de 11 ans, à l'exception des personnes qui circulent à l'intérieur des véhicules, des cyclistes et des usagers des deux roues ou des personnes qui pratiquent une activité sportive. Les contrevenants exposent à une amende de 135 euros. Vous êtes bien sûr Radio Orient, il est 12h16, à 12h30 votre journal en langue arabe. J'aurai le plaisir de vous retrouver à 15h pour le flash, 17h30 pour le journal. Très bon début d'après-midi à l'écoute de Radio Orient.